Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Dans 20 minutes, je reçois un prodige qui vient tout juste d'être nommé directeur musical de l'Opéra National de Paris, Gustavo Dudamel, chef d'orchestre atypique à la personnalité charismatique. Depuis toujours, il se bat pour que la musique soit accessible à tous. Sans barrière sociale, il nous dira quels sont ses projets à Paris. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra sur cet espoir de réouverture, de retour à la vie normale. Une sortie de crise qui se heurte toujours à un niveau élevé de l'épidémie. Et puis à partir de 19h20, on s'intéressera, figurez-vous, au bricolage, dont le marché a enregistré une croissance de 13% l'an dernier, avec un doublement des ventes en ligne et l'arrivée de nouveaux bricoleurs plus jeunes, plus féminin également. Voilà pour le programme. Avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est pratiquement 18h. Merci à vous d'écouter Europe 1.
À mesure qu'on va progresser sur la vaccination, que nos efforts vont permettre de réduire la circulation du virus, on va progressivement ensuite rouvrir un certain nombre de lieux, selon un calendrier qu'on est en train de travailler.
Rouvrir à la mi-mai, c'est le cap fixé par l'Élysée. Un cap, pas une promesse ferme, pas de précipitation, dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
L'Élysée avance prudemment sur ce dossier, surtout ne pas se laisser piéger par le calendrier ou comment dire les choses sans jamais les nommer. Décryptage dans ce journal.
Il y a les doutes ou les inquiétudes autour des vaccins AstraZeneca et Janssen et il y a le succès des vaccins à ARN messager comme celui de Pfizer ou Moderna. Les laboratoires se lancent dans la course.
La reprise économique booste le PIB chinois, plus 18% sur un an. Et la machine repart aussi aux États-Unis et les entreprises française en profite.
L'affaire de la disparition de Mia, la fillette de 8 ans, reste introuvable. Ses quatre ravisseurs engagés par sa mère sont en garde à vue.
Il n'y a pas de crime sans criminel, mais il y a des crimes sans effusion de sang. On croirait presque revenu au temps d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot. C'est le grand retour du roman policier garanti sans hémoglobine. Ce sera la fin de ce journal.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,85% à 6287 points.
La météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et dis donc, vous avez des bonnes nouvelles. Le soleil qui va dominer demain.
Oui, sur une grande partie du pays. Alors le soleil s'impose, mais nous aurons quand même quelques petits passages nuageux. Il sera masqué de temps en temps, rien de très inquiétant. C'est dans le sud en fait, au bord de la Méditerranée, que le temps sera agité. Demain, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La troisième vague est loin d'être terminée, dit Jean Castex. Le Premier ministre en déplacement dans un CHU de Caen a tempéré les ardeurs de ceux qui imaginent déjà un mois de mai normal ou presque normal. Bien, le porte-parole du gouvernement a pratiquement fait la même chose, lui aussi.
Oui, Gabriel Attal, pressé de questions également, notamment sur la réouverture des commerces. Le porte-parole du gouvernement qui a tenté de recadrer les choses. Hein. Prudence, prudence.
Le président de la République l'a dit dans son allocution il y a 15 jours. Il a parlé d'un début de réouverture à la mi-mai, en commençant par certains lieux de culture et certaines terrasses. Ensuite, les choses se feront progressivement à mesure que la situation sanitaire s'améliorera et à mesure que la vaccination continuera à se déployer. Donc à mesure qu'on va progresser sur la vaccination, que nos efforts vont permettre de réduire la circulation du virus, on va progressivement ensuite rouvrir un certain nombre de lieux selon un calendrier qu'on est en train de travailler. On était hier en réunion autour du président de la République et du Premier ministre avec un certain nombre de collègues du gouvernement pour travailler à ce calendrier de réouverture, aux modalités de réouverture. Mais aujourd'hui, l'heure est évidemment à la mobilisation et à la prudence.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ne nous emballons pas, restons calmes. Ce pourrait être la doctrine de l'exécutif, mais sa communication a peut-être fini par brouiller les pistes.
Oui, Emmanuel Macron a parlé d'objectifs de réouverture progressive autour de la mi-mai. Le problème, c'est que certains commerçants, restaurateurs en tête, mais aussi les acteurs du monde de la culture, du tourisme, ont compris le 15 mai. Sauf que Jean-Rémy Baudot, l'Élysée refuse de donner en fait un calendrier plus précis.
Non Isabelle, pas de calendrier précis. Notez la petite nuance dans la bouche de Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement ne parle plus du 15 mai, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Il parle de la mi-mai. Mi-mai, ce sera donc eh bien, le retour de début de quelque chose. Et ça commencera par certaines terrasses, certains lieux de culture. Là encore, je cite Gabriel Attal, on notera la prudence. La réalité, c'est que l'Élysée veut donner des perspectives, rassurer, montrer que l'exécutif est à la manœuvre pour permettre aux Français de reprendre le plus rapidement une vie normale. Mais comme me le confie un conseiller à l'Élysée cet après-midi, il y a toute une série de données à prendre en compte pour pouvoir décliner un calendrier précis. comprendre des données sanitaires, techniques, mais surtout politiques. Si on rouvre, il faut que ce soit pour de bon, dit-on à Bercy. Voilà pourquoi il faudra attendre la prochaine allocution du président pour avoir des dates et un protocole précis, officiel. D'ici là, l'exécutif veut éviter de s'avancer. Souvenez-vous, Isabelle, la dernière fois que le président a demandé de tenir 4 à 6 semaines, là encore, je cite, c'était début mars, on est 6 semaines plus tard et rien n'est réglé.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
L'épidémie reste stabilisée à un niveau élevé. Plus de 5900 malades sont hospitalisés dans un service de réanimation. Côté vaccination, les chiffres sont en progression.
Oui, on dépasse désormais les 450 000 injections quotidiennes. Et pourtant la couverture vaccinale reste encore relativement faible. Près de 23% de la population majeure a reçu une première dose. Le taux passe à 8% pour deux doses.
Et on rappelle qu'un peu plus de 2 millions de Français de plus de 75 ans n'ont toujours pas été vaccinés. L'assurance maladie appelle d'ailleurs chaque personne, une par une, pour leur proposer un rendez-vous.
Une campagne qui consacre la supériorité des vaccins Pfizer et Moderna. Le point commun entre les deux, bien sûr, ce sont des vaccins à ARN messager.
Et à tel point que l'Europe pourrait d'ailleurs se passer de l'AstraZeneca, la ministre Agnès Pannier-Runacher l'a expliqué ce matin. Pas sûr que Bruxelles renouvelle les stocks. Désormais, il n'y en a que pour l'ARN, Victor Dolande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac, avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais cliniques de phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a dopé la recherche sur les vaccins ARN messagers, selon Bernard Verrier, directeur de recherche à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20. Et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante. Et surtout, plus de labos pour développer des vaccins ARN messagers, ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles dans les années à venir.
Et puis Victor, on a aussi appris aujourd'hui de la bouche du PDG de Pfizer qu'il envisageait une troisième dose de son vaccin.
Oui, il confirme qu'il faudra sans doute une troisième dose entre 6 mois à 1 an après la première injection. Et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année. Mais tout cela doit être confirmé par des études sur la durée de l'immunité parce que pour le moment, on n'a tout simplement que 6 mois de recul avec les premières personnes vaccinées avec le sérum Pfizer.
Merci beaucoup Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Quant à l'Agence européenne du médicament, elle rendra son avis mardi prochain sur le vaccin des laboratoires Johnson & Johnson.
Oui, on rappelle que son utilisation est suspendue aux États-Unis et ses livraisons sont retardées en Europe après l'apparition de 6 cas de caillots sanguins, dont un mortel.
La vaccination qui reste le seul moyen de retrouver le parfum d'une vie normale, c'est en tout cas le message que font passer les autorités. Israël, elle, franchit un pas de plus vers cette vie d'avant le Covid.
Les Israéliens pourront sortir sans leur masque à partir de dimanche, le masque de protection ne sera plus obligatoire à l'extérieur. L'État hébreu fait un pas de plus dans la levée des restrictions. 53% de la population israélienne a reçu les deux doses de vaccin anti-Covid.
Et en Chine aussi, on tourne le dos à l'épidémie. L'économie repart de plus belle. 18% de croissance du PIB au premier trimestre. Ça repart également aux États-Unis. Et les entreprises françaises en profitent.
Oui, déjà dopée par la politique monétaire très accommodante de la Banque centrale américaine, la bourse de New York était toute proche de l'euphorie. Hier, plusieurs indicateurs comme les chiffres du chômage sont au vert ou pas loin. L'Amérique repart de l'avant et cette reprise très forte profite aux entreprises françaises à l'exportation. Louis de Rangère dirige une société qui fournit des machines de conditionnement à l'industrie américaine.
Depuis début janvier, on a énormément de demandes de la part des États-Unis. On le voit au travers des projets. Les projets sont beaucoup plus concrets et même nos interlocuteurs y sont très positifs. On voit qu'avec l'arrivée des vaccins et peut-être des plans de relance qui se profilent, ils veulent croire en la reprise de l'économie mondiale et donc ils veulent participer. Ils veulent que leur industrie soit prête à repartir pour pouvoir produire et livrer dans le monde entier. Ils ont besoin de s'équiper, surtout après une période où il y a eu peu d'investissements pendant l'année 2020 parce que la croissance était incertaine, la situation mondiale était incertaine. Donc ils investissent massivement et ils se tournent vers les entreprises américaines, bien sûr, mais aussi européennes pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Le directeur de Mom Packaging, Louis de Rangère, il répondait à Carole Ferry.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. La petite Mia toujours portée disparue. Quatre hommes responsables présumés de son enlèvement sont en garde à vue.
Et puis le retour des romans policiers à l'ancienne.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h09, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre et c'est toujours le mystère dans les Vosges autour de la disparition de Mia. Cette petite fille de 8 ans reste introuvable.
La justice craint qu'elle ne soit déjà à l'étranger avec sa mère. Cette dernière aurait contacté les quatre ravisseurs pour qu'ils enlèvent sa fille. Sur le profil d'ailleurs des kidnappeurs, on commence à en savoir un peu plus, Arthur Elmbaché.
Chez l'un d'entre eux, les enquêteurs ont retrouvé le script, le texte qu'il fallait dire à la grand-mère de Mia pour obtenir sa confiance et repartir avec l'enfant. À l'origine de ce scénario, qui a parfaitement fonctionné mardi, la mère de la fillette qui a trouvé et recruté ses hommes de main sur Internet, dit le procureur d'Épinal Nicolas Heitz, et qui a récupéré sa fille 20 minutes seulement après l'enlèvement.
Il n'est pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national. Notre département, les Vosges, n'étant pas très éloigné de plusieurs frontières. Des diffusions internationales ont bien entendu été réalisées pour faciliter leur localisation et leur appréhension. Mon parquet a également émis des demandes d'entraide pénale internationale en urgence absolue, dans le détail desquelles vous comprendrez naturellement qu'il m'est impossible de rentrer.
La plaque d'immatriculation d'une des voitures des kidnappeurs a été relevée par un témoin ici dans les Vosges mardi. Or, cette plaque est enregistrée dans les bases de données des services de renseignement. La DGSI, ces hommes proches de l'ultra-droite, faisaient même l'objet d'une enquête du parquet national antiterroriste. C'est grâce aux informations de ces services qu'ils ont été repérés et arrêtés. Épinal, Arthur Elmbaché, Europe 1.
À Strasbourg, un rebondissement dans l'affaire du financement de la construction d'une mosquée. Elle ne sera finalement pas subventionnée par la ville. L'association d'origine turque qui réclamait ses fonds a renoncé d'elle-même à cette subvention.
La mort d'Éric Raoult, l'ancien ministre délégué à la ville de Jacques Chirac, est décédé ce soir à l'âge de 65 ans.
En ce moment, vous savez que c'est impossible d'aller au cinéma. Covid oblige. En revanche, rien ne vous empêche de vous plonger dans un bon polar.
Et que diriez-vous d'un bon roman policier sans hémoglobine? Le bruit feutré des pas du criminel sur la moquette le soir alors que tout le monde dort. Et bien voilà, c'est le retour des enquêtes façon Agatha Christie. On appelle ça le cozy crime. Le polar à l'ancienne revient en force et notamment en Grande-Bretagne.
Et par exemple, le Murder Club du jeudi, publié par l'éditeur d'Agatha Christie, qui signe la troisième meilleure vente de tous les temps. Plus d'un million d'exemplaires vendus, Nicolas Caro.
Le cozy crime, c'est le roman noir qui ne fait pas peur. Dans le Murder Club du jeudi, par exemple, un groupe de retraités se rassemble chaque semaine pour réfléchir à des affaires non résolues et essayer d'en percer l'énigme. Un jour, le directeur de leur village de retraite est retrouvé assassiné dans la cuisine. À eux de mener l'enquête. Un vrai cozy crime, Violaine Chivot est l'éditrice du livre aux éditions du Masque.
Déjà, c'est un roman d'enquête. Il y a peu de violence, il n'y a pas de détails glauques. Et dans le cozy crime, là où les personnes qui mènent l'enquête sont souvent des amateurs en fait, qui se sont trouvés là un peu par hasard ou par chance. Et puis on est souvent dans un décor bucolique, on est à la campagne, dans un cadre un peu intimiste.
Tout ça saupoudré d'humour anglais, ces temps-ci, le cozy crime est plébiscité.
En ce moment, je pense que c'est particulièrement une littérature dont on a envie et besoin. Ça permet de s'évader en toute légèreté, de fuir l'amorosité et l'angoisse ambiante.
Les éditeurs se ruent sur le phénomène. La Martinière publiera en mai une nouvelle série, Les Dames de Marlowe enquête, une dame de 77 ans, amatrice de mots fléchés qui se transforme en détective. Succès annoncé.
Voilà le Cozy Crime, donc signé Nicolas Caro du service culture d'Europe 1, spécialiste littéraire, évidemment.
Allez, un mot de football. 33e journée de Ligue 1, le leader Lille reçoit Montpellier. Coup d'envoi à 21h et ce sera à suivre, bien sûr, en fil rouge sur Europe 1. Et puis le tennis, Stefanos Tsitsipas retrouvera Daniel Evans en demi-finale du Masters 1000 de Monte Carlo.
C'était le journal de Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info, Christophe. La météo à Nice, à Dadi, un temps plus agité demain dans le sud.
Oui, plus précisément des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, Isabelle. Dès le début de la journée, nous avons au bord de la Méditerranée des pluies qui vont arroser toutes ces régions, avec même parfois des coups de tonnerre, notamment sur le Var demain matin. Au fil des heures, ces pluies vont se décaler vers la Corse, où là aussi, les orages vont gronder sur l'ouest de l'île. Sur les Pyrénées, il neige à partir de 1000 mètres d'altitude où on attend 10 cm de neige fraîche. Sur la moitié sud, de l'Aquitaine à la vallée du Rhône en passant par l'Auvergne, là le temps reste sec. Les nuages alternent avec les éclaircies. Le Mistral et la Tramontane soufflent toujours jusqu'à 60 km/h. Partout ailleurs, c'est du soleil pour tout le monde. Côté température, quelques gelées encore demain matin avec moins 4 à Aurillac, moins 3 à Montluçon, moins 1 à Besançon et 8 à Nice. Dans l'après-midi, c'est stationné. Ah si, allez, on gagne quelques degrés. 10 degrés à Dunkerque, 12 à Caen, 14 à Rennes, Paris et Lyon, 15 à Bordeaux et 17 la maximale pour Marseille et Bastia.
Chaque degré est important, vous le savez.
Là, on en gagne 2 par exemple sur Paris.
Bien.
C'est important.
Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, je reçois le nouveau directeur musical, superstar de l'Opéra de Paris. Il s'appelle Gustavo Dudamel. Il voit la musique comme une bouée de sauvetage qui doit être accessible à tous, sans frontières sociales. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Un invité prestigieux ce soir sur Europe 1 que j'ai eu le privilège de rencontrer tout à l'heure à l'Opéra Garnier à Paris où nous avons enregistré cet entretien. Bonsoir Gustavo Dudamel.
Hola.
Bienvenue à Paris, bienvenue en Paris.
Merci beaucoup.
On a appris aujourd'hui que vous alliez succéder à Philippe Jordan comme directeur musical du très prestigieux Opéra National de Paris à partir du 1er août. Félicitations d'abord. Vous êtes, comme on dit en espagnol, un fenomeno, l'équivalent d'un Neymar dans le foot. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas très bien la musique. Je suis en train d'interviewer Neymar. Vous avez votre étoile sur Hollywood Boulevard pour que nos auditeurs toujours comprennent bien que c'est un événement que nous sommes en train de vivre ce soir sur Europe 1. Gustavo Dudamel, vous êtes vénézuélien, vous venez de fêter vos 40 ans, vous avez dirigé les institutions musicales les plus renommées partout dans le monde. Alors, je ne vais pas tout citer, mais vous avez notamment été le plus jeune chef d'orchestre à diriger le célèbre concert du Nouvel An de Vienne, qui est suivi chaque année par plus de 50 millions de personnes dans le monde. Vous venez de quitter la direction musicale et artistique du Los Angeles Philharmonic, où vous étiez depuis 2009. Vous y avez apporté énormément de choses, on va y revenir évidemment. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi Paris? J'imagine que vous auriez pu aller partout dans le monde.
Muchas gracias.
Bien, merci
Estoy
beaucoup.
Muy feliz porque este día es
Je
un
suis
día
très
muy
heureux car c'est une journée très, très spéciale.
Honrado,
je me sens
maravillosement
honoré
et feliz pues, de poderlo vivir.
Heureux de faire preuve de
Creo
cet engagement et je
si,
le dis avec beaucoup d'intensité ces nouveaux engagements. En fait, pourquoi Paris? Bien parce que c'est un endroit qui a des qualités exceptionnelles. C'est un des opéras les plus grands du monde avec une tradition très longue, magnifique, où il y a lieu d'avoir la transformation, le développement. Et donc, le choix n'a pas été difficile, franchement. Je n'ai pas pu ne pas accepter cette invitation, cette proposition que l'on m'a faite.
D'autant que vous connaissiez Gustavo Dudamel, vous connaissiez les musiciens de l'Opéra de Paris, puisque vous les avez déjà dirigés en 2017 dans la Bohème. J'imagine que ça s'est bien passé, puisqu'aujourd'hui vous décidez donc de poser vos valises à Paris pour les 6 prochaines saisons.
Si. Fue una experiencia maravillosa.
En effet, yo creo que c'était une expérience merveilleuse et c'était une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui ici. Comme je l'avais déjà dit, j'ouvre un nouveau chapitre dans ma vie. Cela a été un moment très intense. Déjà, lors de la première répétition, on a pu établir un lien, une connexion et ce souhait de transformer les choses, de travailler en équipe. Je me rappelle encore de ces répétitions. Et en effet, c'est un orchestre, l'Orchestre de Paris, magnifique, au-delà de leur qualité artistique merveilleuse. Je crois énormément au facteur humain et cette générosité de pouvoir travailler en équipe.
Quels sont vos projets pour Paris? Quelles sont les productions sur lesquelles vous avez déjà commencé à travailler? Est-ce que vous pouvez nous faire quelques confidences pour Europe 1 ce soir?
Bueno, ahora estamos trabajando muchísimo
bien,
las próximas temporadas.
Nous travaillons beaucoup pour la programmation des nouvelles saisons.
Claro,
nous avons déjà une idée assez claire de la première saison. Au départ, avec les concerts, nous avons l'opéra Turandot de Puccini, voilà une production pour l'opéra. Nous avons également les Noces de Figaro de Mozart, on va faire la production, donc Turandot à la Bastille et Mozart. Ici, l'Opéra Garnier. En plus, nous avons également un répertoire symphonique. Il est très important de développer ces activités dans la fosse avec les musiciens. Nous avons Charpentier, Boulez également, en passant par Mahler, Mozart, Berlioz, Ravel.
C'est très éclectique tout ça. C'est vrai que l'Opéra de Paris, c'est à la fois de la musique, du chant, de la danse, de la scène. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'opéra par rapport à la musique symphonique ?
No, bueno, todos los elementos
que están implícitos pues, les éléments
en l'action de lo que es la ópera.
Intrinsèque à l'opéra. Il y a du théâtre, de la danse. Tout ce qui suppose le travail acoustique, ces défis de mettre tout ça en musique ensemble et que cela donne un résultat homogène qui fasse sens et qui puisse véhiculer un message de transformation pour le public. Voilà ce qui est un élément transformateur de l'opéra. Et le temps est beaucoup plus important au sein de l'opéra.
Vous avez une approche de la musique qui me touche beaucoup, Gustavo Dudamel. On dit encore trop souvent que c'est une musique réservée à des initiés. Vous, au contraire, vous croyez profondément que c'est un art sans frontières sociales, capable d'unir, de dépasser tous les clivages.
L'arte tiene que ser visto como un reflejo de la identidad.
Que l'art doit être perçu comme un reflet de l'identité de la communauté, la communauté du public pour lequel on produit cet art. Et pour moi, ceci est fondamental. Et nous devons faire tomber ces frontières, ces murs dans lesquels parfois se sont enfermés la musique classique et l'opéra, et ouvrir cet univers et faire venir les nouvelles générations pour qu'ils sentent que cet univers-là leur appartient également. L'art a une temporalité merveilleuse et c'est merveilleux. Et en effet, ceci est lié au fait de la perception de la musique, c'est-à-dire cette perception a été un peu éloignée de l'esthétique des enfants et des nouvelles générations. Donc il faut rompre tout cela et il faut faire en sorte que l'art et la musique leur appartient également et que cela fait partie de leur évolution en tant qu'être humain pour qu'ils comprennent également la beauté.
Dans votre pays, le Venezuela, pays où le taux de criminalité est parmi les plus élevés au monde, où la moyenne d'âge de la population est de 26 ans, la musique classique, ça n'est pas un domaine réservé à l'élite. C'est une fierté nationale, au même titre que le foot. Hein, c'est une vraie passion. Je voudrais que l'on écoute, si vous le voulez bien, ensemble, un extrait d'une de vos réalisations avec l'Orchestre National des Jeunes Simon Bolivar. Le Mambo de West Side Story de Leonard Bernstein, que vous revisitez, Gustavo Dudamel. Alors, on n'a pas l'image, hein, mais dans vos concerts, les gens bougent, les gens vivent, ils se lèvent, il y a des fleurs qui sont lancées sur les musiciens. Vous allez réussir à faire bouger l'Opéra de Paris comme ça ?
Bueno, yo creo que en las dimensiones y en los principios y en todo lo que existe, haremos cosas.
Toutes les valeurs de l'Opéra, nous allons pouvoir voir des évolutions, mais en réalité, tout ce que vous venez de décrire, ce n'est pas du tout préparé. Hein. Par exemple, cette œuvre, le Mambo de West Side Story, en fait, ce n'était pas préparé du tout, c'était spontané. Et l'idée était tout de même de faire voir que la musique, c'est de la joie.
Oui, mais ça, c'est aussi votre personnalité, j'ai l'impression, parce que vous êtes hyper expressif, vous êtes à part dans votre façon de diriger, vous reconnaissez quand même que votre profil dépoussière un peu l'institution.
Bueno, a ver, sí, porque yo creo que yo crecí,
grandi viendo la música no como en percevant la musique pas comme une obligation, ou comme quelque chose de spécial dans la structure sociale. En fait, j'ai grandi à la maison où il y avait beaucoup de musique dans le sein de El Sistema, qui est devenu également une famille. Il y avait une équipe qui m'accompagnait. Voilà pourquoi ma perception n'est pas cette perception élitiste. Et je ne sais pas si je fais de la musique d'une façon différente, mais dans tous les cas, je sais que je la conçois d'une façon particulière. C'est la façon dont on grandit finalement, et comment on souhaite véhiculer le message de ce que la musique veut dire exactement pour le public, bien sûr.
Vous venez de parler d'El Sistema, dont vous êtes issu. À Los Angeles, vous avez créé le Youth Orchestra, qui est un programme d'approche communautaire, influencé justement par la philosophie de ce programme d'éducation musicale vénézuélien. L'idée, c'est d'encourager le développement social à travers la musique, hein, c'est ce que vous nous expliquez. Vous allez peut-être monter un programme similaire en France ?
Non, bueno, mira, ya existen iniciativas.
Il y a déjà des initiatives. Il y a eu déjà des partenariats avec la France et El Sistema, mais avec les valeurs partagées par cette équipe auquel je me joins et ces valeurs que nous essayons de développer. Il y a des initiatives merveilleuses par le biais de l'Académie de l'Opéra, du ballet. Et je pense que comprendre l'art en tant qu'un outil de transformation sociale et fondamental.
Eh bien, je vais être franche avec vous, Gustavo Dudamel. Je ne suis pas souvent impressionnée dans cet exercice de l'interview, mais aujourd'hui, j'avais un peu le trac parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est capable de susciter des émotions. Et en ces temps troublés, c'est tellement rare d'avoir des émotions positives. Un grand merci à vous donc de nous avoir accordé cet entretien.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant, le rappel des titres de l'actualité avec Christophe Lamarre et vos grandes voix du vendredi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h30, le rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Une réouverture à la mi-mai, mais pas forcément le 15 mai. Le gouvernement continue de réfléchir au calendrier. Rien n'est encore définitivement fixé, dit le porte-parole de l'exécutif. Une prudence partagée par Olivier Véran, le ministre de la Santé en déplacement dans un vaccinodrome des Alpes de Haute-Provence, rappelle que la levée du couvre-feu n'est pas non plus d'actualité. Sur la réouverture de certains commerces, des annonces seront faites dans les semaines qui viennent, dit-il. Toujours aucune trace de Mia, cette petite fille de 8 ans portée disparue dans les Vosges. Selon les enquêteurs, elle pourrait se trouver à l'étranger avec sa mère. Les 4 hommes qui sont soupçonnés de l'avoir kidnappée sont toujours en garde à vue. La mort d'Éric Raoult, l'ancien ministre délégué à la ville de Jacques Chirac, est décédé à l'âge de 65 ans. Et puis le football, 33e journée de Ligue 1, le leader Lille reçoit Montpellier, coup d'envoi à 21h ce soir, un match à suivre en fil rouge sur Europe 1.
Avec Sébastien Boé. Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h. Nouveau journal complet. La météo, Anissa Haddadi. Alors demain, il y aura le sud et puis le reste de la France. Hein.
Deux salles, deux ambiances, effectivement, Isabelle. Demain, sur le pourtour méditerranéen, la journée sera agitée avec de la neige à 1000 mètres d'altitude sur les Pyrénées, des averses jusqu'à la Côte d'Azur et en Corse, quelques coups de tonnerre également prévus au bord de la Grande Bleue, du vent Mistral et Tramontane qui se renforce et qui souffle jusqu'à 60 km/h partout ailleurs. Le soleil est au rendez-vous avec quelques passages nuageux tout de même. C'est pas un soleil radieux dans un ciel complètement dégagé, mais ça reste agréable. Les températures, encore quelques gelées sur les régions centrales. Moins 4 à Aurillac, moins 2 à Clermont-Ferrand, 3 degrés à Paris, 8 à Nice. Dans l'après-midi, on va gagner 1 ou 2 degrés par-ci par-là avec 10 à 17 degrés, 10 à Dunkerque, 14 à Paris et 17 pour Ajaccio.
Ça, c'est pour demain. Dimanche, ça donnera quoi, Anissa ?
Dimanche, c'est une journée beaucoup plus nuageuse. Le temps est sec, mais nous aurons plus de nuages. Mais la bonne nouvelle pour dimanche, c'est que nous en aurons fini, en tout cas pour dimanche, avec les gelées matinales. Toutes les températures quasiment seront positives dimanche matin.
Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Merci Anissa, à tout à l'heure 19h pour un nouveau point météo complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
On ouvre tout de suite le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ces grandes voix. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur cet horizon qui nous fait tellement rêver, la mi-mai, cette sortie de crise et cette réouverture progressive du pays qui se heurte au niveau toujours élevé de l'épidémie. Emmanuel Macron dit que le pic n'a pas encore été atteint à l'hôpital, ce qu'a confirmé aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex.
Cette troisième vague est loin d'être terminée, même si sur ce qu'on appelle l'incidence, on constate en Normandie comme ailleurs un certain nombre d'évolutions favorables. Mais on sait bien qu'il y a toujours un décalage avec la situation hospitalière et donc vraiment nous devons tenir.
Jean Castex en déplacement au CHU de Caen aujourd'hui, on l'entend hein, pour le Premier ministre, le plus dur n'est pas derrière nous. Alors ça paraît un peu contradictoire hein, de parler d'une réouverture tout en disant, Stéphane Vernet, attention, on est loin d'en avoir terminé.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est loin d'en avoir terminé et que de toute façon, à la mi-mai, même si tout se passe bien, ça ne sera pas fini. C'est-à-dire que le virus va toujours être en France, il va continuer à circuler, il peut y avoir des nouveaux variants, et on ne sera pas sorti d'affaire. Ce qui veut dire qu'il va falloir garder un certain nombre de mesures prophylactiques, notamment les gestes barrières, etc. Ce qui change à partir de la mi-mai, c'est que si le gouvernement arrive effectivement à tenir la cadence des vaccinations telle qu'elle a été annoncée, je vous rappelle, c'était les objectifs 10, 20, 30, ça veut dire 20 millions de Français vaccinés à la mi-mai, et ces 20 millions de Français vaccinés, c'est ceux qui sont le plus susceptibles, les plus fragiles en fait, oui. Et qui sont le plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Ça veut dire que ce qui se passe à la mi-mai, c'est que si ça marche, c'est beaucoup moins, c'est le début de moins de pression sur la réanimation à l'hôpital. Et ça veut dire qu'on peut commencer à déconfiner. Le problème, c'est qu'on pourra commencer à déconfiner progressivement, tout en continuant à être vigilant. Et la problématique du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ce qu'on attend tous, c'est qu'on nous dise « c'est fini ». Vous pouvez y aller. C'était ce qui s'est passé l'année dernière. Et en fait, ils n'ont pas envie de revivre la même chose. Il faut qu'ils arrivent à rouvrir en disant les choses s'améliorent. On va pouvoir faire un certain nombre de reprendre le cours de nos vies, les terrasses, etc. Mais il va falloir rester vigilant. Et c'est ce double message qui fait que les choses apparaissent floues aujourd'hui.
Oui, vous avez raison. Hier, Emmanuel Macron a voulu montrer que l'exécutif était mobilisé sur le sujet. Il y a eu un échange avec des maires et puis une réunion avec une dizaine de ministres. Il a confirmé la réouverture progressive des lieux de culture, des terrasses, à partir du 15 mai, au risque quand même de s'enfermer à nouveau dans un calendrier, alors que, on vient de le dire, les contaminations ne baissent pas, Louis Osalter.
Oui, et puis c'est pas la première fois qu'ils tentent de fixer une échéance sans qu'elle soit toujours tenue. Je vous rappelle quand même qu'en sortant du deuxième déconfinement à la fin de l'année dernière, on parlait d'une réouverture potentielle des restaurants en janvier. On a vu que c'était évidemment très loin de la réalité. Ensuite, cette durée de 4 à 6 semaines, les dernières semaines qu'il fallait patienter avant de voir la couleur de la vie plus normale pour la mi-avril. Bon, le 15 avril, c'était hier, donc on n'a pas repris une vie plus normale, si tant est qu'on puisse savoir ce que ça veut exactement dire. Là, il refixe à nouveau un créneau. Alors, il faut être honnête avec Macron, il a été flou dans son allocution quand il dit « on va commencer peut-être à rouvrir mi-mai ». Il ne fallait pas le comprendre comme une tous en terrasse le 15 mai. Oui. Mais il est évident que vu l'impatience générale que je partage, moi aussi j'aimerais bien être en terrasse le 15 mai, hein, évidemment. Mais le danger, en fait, en tenant ce type de propos et en donnant ce genre d'échéance, c'est que ça puisse être compris comme ça, comme une date précise et comme les choses précises qui, en fait, sont uniquement une projection de ce que nous souhaitons collectivement retrouver. C'est sûr qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron rêve la nuit de l'allocution où il dira aux Français « on peut enlever les masques, on peut se faire la bise, tout est terminé ». Et cette épidémie
est finie.
C'est
pas pour demain, ça, on a bien compris.
C'est pas pour demain. Toutes les épidémies sont terminées, donc il n'y a pas de raison que celle-ci se termine. La grande inconnue, c'est quand. Et effectivement, quoi qu'il se passe à la mi-mai, quoi qu'on réouvre, Stéphane Vernet a raison, il y aura toujours une forte pression à l'hôpital. Et donc, c'est sur le front des réanimations et de l'hospitalisation de patients atteints de formes graves, compte tenu en plus de la dangerosité des variants. Il y aura tous les paramètres auxquels nous avons affaire aujourd'hui seront toujours présents à la mi-mai. Donc, il n'y aura pas de vie plus normale, ou en tout cas, il n'y aura pas un retour à la normale en tant que telle. D'où la nécessité de ne pas donner trop de perspectives. Et surtout, ce qu'attendent les Français, c'est sans doute moins, en fait, une perspective que l'efficacité gouvernementale sur la vaccination.
Est-ce que le gouvernement, finalement, Éric Scholl, n'est pas un peu pressé par les réouvertures des pubs britanniques? On a vu ces images à la télévision, évidemment, ça nous a tous fait rêver. Les annonces de la Belgique d'une réouverture le 8 mai?
Si, évidemment, et ça fait déjà même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que le gouvernement était très inquiet à cette idée du contraste des images entre une France qui est dans un semi-confinement, voire un confinement complet, et effectivement à l'étranger, et en particulier en Grande-Bretagne, où on a vu que le taux de vaccination était beaucoup plus avancé, où on voyait les pubs rouvrir, c'est-à-dire est-ce qu'au fond on a eu la bonne stratégie, et ça c'était très, très inquiétant, notamment à l'Isée. Donc il fallait absolument donner des signes, des signes. Et vous savez, il y a cette image qu'on voit dans les aventures de Tintin, on voit les deux, Dupont et Dupont marcher dans le désert, on voit une sorte d'oasis devant eux, et puis ils vont y arriver, et chaque fois ils sont sur le point d'y arriver, ce mirage recule. Et c'est un peu ça qu'on a, c'est-à-dire qu'on a cette idée en permanence, et c'est important de donner un horizon, de donner une image de la réouverture, de la culture, des restaurants, des terrasses, Mais à chaque fois qu'on croit qu'on va y arriver, on a l'impression que ça recule. Et c'est ça, que c'est dans cette contradiction qui est très difficile à gérer. C'est-à-dire à la fois garder un optimisme, et c'est essentiel dans cette période où on sent que la psychologie, où on sent cette impatience si forte, il faut pouvoir donner un horizon. Et en même temps, on sent bien que le juge de paix, on le sait, c'est la situation dans les hôpitaux. C'est-à-dire que le gouvernement ne maîtrise pas toutes les données. Donc c'est compliqué. Ce qui est compliqué n'est pas facile à expliquer aux Français, parce qu'on va avoir un calendrier très cadencé, avec des ouvertures ici, peut-être là, avec peut-être quelque chose qui sera territorialisé. C'est pas aussi simple que l'année dernière, qu'on a dit on rouvre tout. Il faut pouvoir faire des pédagogies là-dessus. Et les Français n'ont plus beaucoup envie d'entendre de la pédagogie.
On parlait de la réouverture des pubs à Londres, en Israël, à partir de dimanche. C'est la fin de l'obligation du port du masque en extérieur. Et ça, forcément, ça nous fait rêver aussi. Vous évoquiez, Eric Scholl, le calendrier. Il faut s'inspirer de la méthode britannique, un déconfinement progressif, par palier, par secteur, Stéphane Vernet ?
C'est l'idée. Après, la difficulté, c'est que c'est ce qui aurait dû être mis en place, par exemple, l'année dernière, à la sortie du confinement. Ce qui s'est passé l'an dernier, je pense que ce que le gouvernement ne veut pas revivre cette année, un an après, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une histoire qui bégaye, c'est que finalement, les gens se disent « tout danger est écarté, puisque les choses rouvrent progressivement, etc. » Et on peut se déboutonner. Et le problème, c'est que, alors que, encore une fois, le virus, lui, il sera toujours présent, il va continuer à circuler, même s'il circule à bas bruit, il est là. Et donc, il y a le risque d'un retour, d'un nouveau pic, etc., qui coïncide avec la période où il faudra revacciner les gens, parce que la couverture vaccinale, au bout d'un moment, on ne sait pas trop combien de temps elle dure.
Oui, c'est ça. Le Pfizer, on apprend aujourd'hui qu'il faudra peut-être trois injections.
Dose,
voilà,
etc.
Donc ça complique encore les choses. Oui.
Donc oui, il y a la nécessité de faire les choses par palier. Le problème, c'est qu'on est en France et qu'on a une administration qui est formidable. Et si on les laisse faire, en fait, on aura des modalités de sortie de crise qui vont ressembler à un plan, encore une fois, extraordinaire, avec des attestations de 15 pages. On nous expliquera que dans les départements à numéro pair, on peut rouvrir, que les gens nés dans les années 70 peuvent se mettre à gauche sur les terrasses dans les années 80. Enfin, voilà. Donc, il y a une vraie problématique, mais il y a aussi la nécessité de faire quelque chose, de concevoir quelque chose de très simple.
Et de cohérent.
Efficace.
Mais parce qu'il y a effectivement cette idée, Eric Scholl, de territorialisation, ce serait une bonne idée, ça ?
Ça, c'est certainement, sur un point de vue conceptuel, une bonne idée, parce qu'on comprend bien qu'il y a des endroits que que le virus n'a pas touché tout le monde, que les taux de vaccination ne sont pas les mêmes en fonction des différents endroits. Mais on sait aussi que c'est extrêmement difficile à mettre en place, que c'est aussi difficilement acceptable ou accepté par les Français.
Ça créerait des frustrations, forcément.
D'autant plus si commencer à retirer ce qui va peut-être être fait, ou à enlever les restrictions de circulation, ça devient plus compliqué. Il y a quand même une chose qu'il faut mettre au crédit du gouvernement, c'est, là-dessus, je pense que c'est important de le rappeler, c'est l'école. Depuis le début, on a une politique en matière d'école, on verra s'ils arrivent à la mettre en place, mais au fond, qui est la réouverture des écoles. Et dans
réouverture des écoles et des crèches, 26 avril. Oui.
26 avril, et ça, ils vont tout faire pour y tenir. Entre le 26 avril et le 3 mai, les établissements scolaires, l'ensemble, devraient réouvrir. Alors peut-être pas complètement, peut-être à jauge, à demi-jauge, etc. Mais il faut reconnaître au gouvernement, depuis le début de cette crise, cette conviction que les écoles ouvertes, c'est quelque chose de fondamental. Et on sait que ce n'est pas le plus facile, on a déjà débattu ici, parce que le virus circule aussi dans les écoles.
J'ai encore une question à vous poser. Est-ce que c'est à Emmanuel Macron d'incarner ses futures annonces au risque d'être contredit ensuite par la situation sanitaire, Louis Osalter ?
C'est à lui. Alors souvent, il annonce quand même les bonnes nouvelles. Alors, on a vu que quand il y avait des restrictions, tel département passait en zone orange, rouge ou verte, c'est plutôt Jean Castex qui se chargeait
des mauvaises nouvelles et le président
non seulement des mauvaises nouvelles, mais de leurs détails administratifs barbants, de tous les couacs sur les attestations, de ces longues heures d'explications sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire.
Un nouveau calendrier qui ne serait pas respecté, ça pourrait coûter cher politiquement à Emmanuel Macron.
Bien sûr, et puis de toute façon, la sortie de crise va coïncider avec le début de la campagne présidentielle, si tant est qu'elle n'est pas déjà débutée en réalité. Non, je vois quand même le président qui refait en fait un exercice de mise en scène qui avait eu lieu à la fin du dernier confinement, il y a un an, rappelez-vous, où il avait poussé, il avait un peu bousculé son administration et ses ministres qui avaient peur de rouvrir trop tôt en disant il faut absolument qu'on déconfine le 11 mai. Et c'est ce qu'il avait fait. Je crois que ça avait été plutôt porté à son crédit. De même, quand il n'a pas confiné le pays le janvier, alors qu'il y avait une pression terrible des scientifiques, de l'administration de la santé pour le faire, là on voit qu'il utile, mais c'est de bonne guerre. Il cherche à répéter cette mise en scène du président qui bouscule le système sclérosé, verrouillé, pour pouvoir libérer les Français plus tôt. Il ne faut pas être complètement dupe des arrière-pensées politiques. Mais il y a une certaine réalité dans le fait qu'effectivement, il essaye d'échapper à une certaine pensée unique sanitaire qui s'était beaucoup développée l'année dernière. Et il s'est aperçu que ce n'était pas la solution de gouverner la France uniquement les yeux rivés sur... les taux de réanimation, c'est un critère important, mais quand il a eu des remontées sur toutes les autres conséquences psychologiques, sociales, économiques du Covid, il s'est décidé à prendre en compte d'autres paramètres et c'est tant mieux.
Très bien, on va poursuivre ce débat dans un instant, les grandes voix. On va changer de sujet, on va s'intéresser à la gauche, ou plutôt les gauches qui rament pour trouver des terrains d'entente. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h45, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1, toujours avec Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Et si on parlait de la gauche, qui rêve de rassemblement, mais qui n'y arrive pas. Les ténors de la gauche qui ont rendez-vous ensemble demain à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. Réunion pour entamer des discussions sur une possible union en vue de la présidentielle, alors que les sondages annoncent une déroute historique. Sauf que chacun vient avec son idée. Les insoumis ont leur candidat. Il est en Amérique du Sud d'ailleurs. Les écolos ont leur primaire. Yannick Jadot, qui pourtant y croit encore, ou en tout cas qui fait comme s'il y croyait.
Il y a une aspiration dans ce pays à un grand rassemblement autour de la justice sociale, de la démocratie, de l'Europe, évidemment de l'écologie. Si nous ne satisfaisons pas cette espérance, cette aspiration, à ce moment-là, on sera balayé. Et donc, si nous sommes capables de nous mettre autour de la table, travaillons sur le fond. Petit à petit, vous verrez qu'on avancera vers une candidature commune. C'est ma conviction.
Stéphane Vernet, il y a vraiment une aspiration, comme le dit Yannick Jadot, à un grand rassemblement de la gauche.
Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont tous en train de se dire que de toute façon, s'ils n'y vont pas rassembler, c'est perdu d'avance. Donc la logique fait qu'effectivement, ils ont tous le même discours. Il faut qu'on ait un candidat unique avant le premier tour pour la présidentielle de 2022. Le problème, c'est que vous l'avez très bien dit, Isabelle, tout à l'heure, c'est que chacun y va avec sa propre logique à ce rendez-vous de demain, en fait. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui, lui, a décidé que c'est le grand œuvre de sa vie. Il sera candidat. Il le fait pour rentrer dans l'histoire. Je ne le vois pas retirer sa candidature. Vous avez les Verts qui ont décidé qu'ils allaient choisir quelqu'un parce que la dernière fois, ils se sont effacés au profit des socialistes. C'est leur tour. Ils pensent que c'est le moment et qu'il faut que ce soit un candidat issu de leur rang qui y aille. Vous avez les communistes, en fait, qui ont décidé de faire acte de candidature pour sauver les meubles, parce que ce qu'ils visent, c'est des résultats dans la foulée aux législatives. Et puis, vous avez le Parti socialiste qui est tétanisé à l'idée d'avoir une deuxième fois de suite pas de candidat au deuxième tour de la présidentielle et qui se dit que s'ils n'arrivent pas à placer quelqu'un, ils n'y survivront pas. Et donc, tout ce petit monde va se réunir en disant « il faut qu'on arrive à se rassembler ». Comment ? Ça, c'est la grande question. Vous avez Olivier Faure qui y va dans l'idée de dire, et à mon avis, c'est la plus raisonnable, la plus intelligente, de dire il faut qu'on arrive à passer un accord de gouvernement. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un projet. Et quand on sera d'accord sur un projet, et seulement quand on sera d'accord sur un projet commun, alors se posera la question de savoir qui pour incarner le projet. Le problème, c'est que je vois bien qu'ils vont... Moi, il me paraît évident qu'ils sont partis pour tout faire à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord s'écharper autour du qui avant de penser au quoi.
Au quoi, ouais.
Alors que effectivement la seule échappatoire ou le seul moyen de se mettre d'accord sur une problématique aussi épineuse, c'est de commencer par le projet.
Vous êtes d'accord avec ça, Éric Scholl, le qui passe avant le quoi?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, regardez l'histoire. En 1972, quand il y a l'union de la gauche, on part d'abord commence par le programme de gouvernement. Ce programme, il avait rassemblé à l'époque le Parti socialiste de François Mitterrand. Il rassemblait le Parti communiste et puis il y avait le MRG. Il a quand même fallu se mettre d'accord en 1972 et ils arrivent à un candidat unique pour 1974, c'est François Mitterrand. Mais avant d'arriver au pouvoir, il va quand même falloir attendre jusqu'en 1981. Et là, il y avait pourtant déjà, ils étaient à peu près réussi à faire une base, un programme commun. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que le quoi, c'est-à-dire le programme
le fond,
de
le
la
programme,
gauche,
oui.
En réalité, ils sont trop divisés sur ce programme. Il y a trop de choses qui les séparent. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire entre, si vous voulez, entre une partie du socialisme, entre la partie républicaine qui défend les valeurs de laïcité et d'autres qui sont exactement à l'opposé de ces valeurs-là ? Je pense que les écarts sont beaucoup trop grands pour arriver à trouver un consensus. Donc du coup, chacun joue sa petite... sa petite formation, voire sa personnalité. On a vu, alors Anne Hidalgo a essayé de se dire, après tout, je peux peut-être être la personne qui va monter du Parti Socialiste.
C'est raté, hein, si on et en croit les sondages. Si on voit les sondages, dépasse pas les 6%.
Peut-être qu'il y a un mois, on pouvait peut-être croire qu'il y aurait une étincelle. Cette étincelle est en train de s'éteindre. Donc, on ne voit pas non plus, dans toutes ces personnalités, quelqu'un prendre le leadership. Peut-être que Mélenchon, en 2017, pouvait y croire. Il était assez haut dans les sondages. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est déjà une histoire ancienne.
Jean-Luc Mélenchon, il est entre 9 et 11%. Ça veut dire qu'il est bien loin derrière Marine Le Pen, derrière Emmanuel Macron et même derrière Xavier Bertrand. Donc, si je vous comprends bien, cette réunion de demain, c'est un coup pour rien, Louis Osalter. Hein.
Ouais, ça va être un petit théâtre où en fait, chacun vient jouer une comédie humaine. Il faut y être parce que si on n'y est pas, si un dirigeant de gauche n'y est pas, on va l'accuser d'être le diviseur. Donc, ils y vont. Mais en fait, chacun est déjà parti avec soit son candidat et ou son programme. Et c'est vrai qu'il y a des divergences. Il y a la laïcité, effectivement. Il y a aussi le rapport à l'Europe. Il y a la question du nucléaire qui est fondamentale. On en parle quasiment jamais sur la scène politique, mais c'est un point de divergence évident entre plusieurs familles de gauche. Et alors ça, c'est l'offre, c'est-à-dire c'est la construction de ce que différentes familles politiques de gauche ont apporté, mais il y a aussi la demande. Et en fait, le problème de la gauche, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens de gauche, en tout cas qui se sentent de gauche. J'ai retrouvé un sondage IFOP de juillet dernier où on avait demandé aux gens de se positionner selon qu'ils se sentent de gauche à droite. 39% de gens qui se positionnent à droite, 13% à gauche. Et alors après, il ne faut pas chercher très loin l'explication de ces sondages qui testent dans tous les sens toutes les configurations possibles au premier tour et au second tour, et où pas un candidat de gauche, uni, désuni, ne vient concurrencer le duel Macron-Le Pen. Et même pas un candidat de gauche n'arrive au niveau d'un troisième homme de droite qui est soit Xavier Bertrand, soit Valérie Pécresse, soit un autre. Donc c'est d'ailleurs ce que dit Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste. Oui. Il le dit dans notre numéro de Marianne de cette semaine. Il dit le problème de la gauche, ce n'est pas d'abord sa division, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse structurelle de la gauche à répondre aux préoccupations prioritaires des Français qui font que du côté de l'offre, ils ont beau proposer des programmes, ça percole pas, il n'y a pas une adéquation avec les attentes des Français, et du côté de la demande, en fait, les gens vont plutôt avoir le réflexe de se tourner vers des
Fabien
candidats.
Fabien Roussel, qui va partir seul droit à la présidentielle.
Qui est investi par son parti pour être candidat autonome, un de plus, un prétendant de plus à gauche pour la présidentielle.
Et
il est entre 2 et 3%.
Ouais. Ah oui, j'avais 1%, moi, vous avez plus.
On a déniché un peu plus, okay. Mais c'est pas le Pérou non plus.
Bon, allez, 2 ou 3%, on va lui donner. Le problème, c'est que la base militante, elle aimerait bien cette union, d'après une étude d'Odo. Donc ça, il y a une grande majorité des électeurs socialistes, écolos, insoumis, qui souhaitent un candidat à la prochaine présidentielle, Stéphane Vernet. Ils n'auront pas.
Mais un candidat uni. Non, mais je souscris totalement à ce que vient de dire Louis, je suis complètement d'accord. Ce sondage IFOP de juillet de l'année dernière, il était très impressionnant et on voit bien qu'effectivement, il y a un problème. Mais je rebondis là-dessus parce que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'eux-mêmes le savent, comme ils savent très bien que de toute façon, ce coup-ci, ils ont très peu de chance parce que la France ne vote plus à gauche. Voilà, on va se dire les choses. Ça fonctionne plus. Il y a un désamour. Ils le savent. Et donc, comme ils savent que d'avance c'est perdu, chacun se dit que il peut jouer sa partition aussi en solo.
En solo.
Parce que c'est de l'exposition, parce que c'est quelque chose qui permet de construire pour éventuellement pour plus tard. Mais si vous partez d'ores et déjà dans cette perspective-là, vous n'avez aucune chance. Et effectivement, on sent bien, on voit bien que l'alignement des planètes, il est très clair, en tout cas au moment où on se parle. S'il y a une alternance au duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen en 2022, il viendra de la droite.
Oui, pas de la gauche.
Clairement.
Ouais. Éric Scholl ?
Oui, en même temps, ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est-à-dire un effondrement de la gauche, et là, je pense surtout à la partie gauche de gouvernement, c'est un phénomène qu'on a observé un peu partout ailleurs en Europe, à différents degrés, mais on voit tous les partis de social-démocratie qui ont, peut-être parce qu'ils ont été très longtemps au pouvoir, qui n'ont pas su, à un moment, peut-être se réinventer, c'est-à-dire se réinventer et redonner une sorte d'espérance aux classes populaires, notamment. Et aujourd'hui, ces partis qui représentaient ces espoirs ont perdu pratiquement le pouvoir, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, et en tout cas tentent peut-être de se réinventer en Italie. Ça va être intéressant de regarder ce qui se passe avec le Parti démocrate en Italie. En France, on n'en est pas là. On a l'impression que le débat sur la réinvention n'est pas encore arrivé. On en est plutôt à des batailles de personnes et des batailles, et malheureusement, peut-être pas suffisamment des vrais débats de fond sur les valeurs.
Oui, c'est toujours l'histoire de ce débat de fond. En même temps, on voit mal comment la gauche pourrait réussir à s'unir pour la présidentielle, alors qu'elle n'a pas réussi à s'entendre pour les régionales. On voit que cette hypothétique union de la gauche, elle est compliquée aussi pour les régionales, où elles altèrent. Il n'y a que dans les Hauts-de-France, hein, je crois, qui partent unis les écolos, les socialistes et les insoumis.
Oui, il y a les Hauts-de-France. Il y a quelque chose qui se monte en Pays de Loire, mais le PS n'est pas d'accord pour le rejoindre.
Dans les Pays de Loire, c'est ça ?
L'arc dans les Pays de Loire, ouais. Exactement.
Parce qu'il y a Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise.
Oui, ce qui est très intéressant, en fait, ce qui est symptomatique.
Le PS et le PCF, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, on retrouve des arcs concurrents. Et ce qui est symptomatique, c'est que ça se passe en plus dans des régions qui, historiquement, votent à gauche, vous voyez, qui sont des bassins. Mais je pense aussi que ça rejoint en fait une dissension sociologique, enfin un fossé sociologique qui s'est creusé dans ce qui, avant, faisait la victoire d'un candidat de gauche. Mitterrand, Hollande sont élus par une sorte d'alliance, pour résumer, mais vraiment très grossièrement, l'alliance des profs et des ouvriers, quoi. Ce sont des classes populaires et une partie de ce qu'on appelle une classe bourgeoise, ou en tout cas plus intellectuelle, qui s'unissent quelque part derrière un candidat. Mais aujourd'hui, on a vu la dissension, vraiment un fossé se creuser entre des urbains qui ont des professions intellectuelles supérieures, qui vont voter écolo, et c'est le sens de la vague écologiste dans certaines villes aux dernières élections municipales, et des classes populaires, des ouvriers, des chômeurs, des gens qui sont dans une situation économique et sociale désespérée et désespérante, qui se tournent soit vers le vote Le Pen, soit vers l'abstention, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ne votent plus. Et c'est le grand drame de la gauche, c'est que des gens qui, avant, espéraient en son programme et espéraient que des gens qui étaient d'un milieu plus élevé allaient justement s'allier et constituer un socle sociologique qui fait une majorité en France, eh ben, ça n'existe plus. Ils ne croient plus que des gens de catégorie populaire ne croient plus que des partis politiques, des notables, puissent s'intéresser à leur sort et donc une conjonction d'intérêts qui permettent d'emporter le pouvoir. Ça, je crois que ça n'existe plus, que le fossé est trop profond, que les divergences sont trop profondes, les modes de vie aussi sont devenus trop divergents, y compris au niveau local. C'est le sens des résultats des municipales, où toute une partie de la population ne vote pas ou plus, il y a eu une très forte abstention, y compris à cause du Covid, et où, des gens donc, n'arrivent plus à former cet arc sociologique, ou transsociologique plutôt, qui avant faisait les victoires de la gauche.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Louis Osalter, Éric Scholl et Stéphane Vernet, de m'avoir accompagné ce soir pour ces grandes voix du vendredi.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, toute l'info avec le journal de Christophe Lamarre. À tout de suite.